Vous êtes sur RTL.
Si vous êtes avocat, vous devez être un peu exaspéré parfois par le poids médiatique.
Bien sûr, je vais vous parler d'un procès correctionnel qui s'est tenu à Saint-Etienne il y a quelques semaines et des enseignements que l'on pourra en tirer sur le plan des principes.
On va en parler dans une seconde, le rappel des titres avec Amandine.
Et à la une, le pape François qui accepte la démission de l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit. Le Vatican l'a annoncé il y a une petite heure, fin novembre, il y a quelques jours hein, seulement. L'archevêque avait remis au pape sa démission après avoir été accusé dans la presse d'avoir entretenu une relation intime avec une femme, ce qu'il a catégoriquement démenti. Le Covid et ce deuxième cas confirmé de variant Omicron, après un cas ce matin en Seine-et-Marne, cette fois, ça se passe dans le Haut-Rhin. Il s'agit d'une femme de retour d'un séjour en Afrique du Sud. Et puis les LR connaîtront le nom de leurs deux finalistes pour la présidentielle dans un peu plus d'une heure maintenant, clôture du scrutin.
Ça ne sera pas avant la fin des auditeurs, vous pensez? On ne l'aura pas à 14h30?
Non, parce qu'a priori, les résultats sont donnés aux alentours de 14h30. Alors, ce sera peut-être juste un peu avant.
C'est dommage quand même, parce que moi, j'aimerais bien qu'on ait ça dans notre séquence d'information.
Écoutez, on va essayer de demander, mais vous savez, il faut que le vote soit clos. Et puis ensuite,
par
comme
définition.
C'est tout en ligne, ça va vite, mais peut-être pas non plus aussi vite que vous le souhaiteriez. Bon, bref. On regarde la météo avec Peggy.
Oui.
Peggy, retour du froid cet après-midi.
Oui. Bonne nouvelle.
Je voulais pas vous fâcher en même temps.
Mais non,
Amandine,
mais moi, ça ne fâche pas du tout. Appelez-les peut-être pour qu'ils accélèrent.
Je disais ça gentiment, en fait.
Allez, on y va. C'est vrai, les températures sont froides. On se couvre bien cet après-midi. On perd par endroit, écoutez bien, par rapport à la veille, entre 3 et 8 degrés. C'est le cas à Mulhouse, où il fera seulement 3 degrés cet après-midi. Il en faisait 11 hier. 5 à Lyon, ainsi qu'à Limoges, à Lille, 6 à Paris. Pareil, on avait 11 degrés hier à Paris quand même. 8 à Nantes, à La Rochelle, à Auch. 10 à Brest, 12 à Montpellier et 14 à Nice. Bon, côté ciel. Des Pyrénées au Massif central jusqu'aux Alpes en remontant vers le nord-est. C'est ce qu'on appelle une traîne entre nuages, éclaircies, averses, de la neige à basse altitude avec le retour du froid, des 300 mètres sur les reliefs de l'Est et même quelques flocons en plaine possibles sur les frontières du Nord. Près de la Méditerranée, là ça va mieux, le soleil s'impose aujourd'hui au prix d'un vent fort. En revanche, ça reste instable en Corse avec des averses. Et sur l'ouest du pays, ça va mieux. On retrouve des éclaircies, un temps sec également, sauf c'est vrai entre la Bretagne, le centre, là il y a encore quelques averses et je rappelle que Nord-Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange cru.
Et demain, à nouveau pluvieux, hein, c'est ça?
À nouveau pluvieux sur l'ouest, là où aujourd'hui ça va mieux. Voilà, vous avez bien compris que c'est un jour sur deux. Demain, une nouvelle perturbation pluvieuse, venteuse, va gagner au fil des heures les régions de l'ouest entre les Hauts-de-France et l'Aquitaine. Le ciel sera bien couvert ailleurs, entre la Méditerranée et les Alpes, où le soleil sera, ce sera ensoleillé, pardon, demain matin et plus voilé l'après-midi. Des températures à nouveau froides, encore des gelées le matin et l'après-midi, et maximale de 4 à 7 degrés au nord et plus douce près de la Manche, comme dans le sud, de 10 à 14 degrés.
Pas de neige en vue en pleine.
Sur les frontières du Nord aujourd'hui, peut-être.
Peut-être. Il est 13h05. Merci Amandine, merci à Peggy et merci à Ludovic van de Kerckhoff qui était à la rédaction en chef du 12h30.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bon, Nicolas, le tribunal médiatique, c'est un vaste sujet. On pourrait en parler pendant des heures, mais si vous me permettez, sous Staline, il n'y avait pas ces problèmes-là. À partir du moment où vous êtes en démocratie, il y a une presse, il y a une justice. C'est vrai que justice et médias forment un couple dont les objectifs, les intérêts, les pratiques sont opposés, sans doute. Mais je ne vois pas comment on peut faire autrement, Nicolas.
Ah ben moi, je vois effectivement comment on peut faire autrement, parce qu'on est quand même dans un état de droit. Mais avant de rappeler les principes, un cas pratique. Il y a quelques semaines, j'ai défendu devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne une jeune femme d'une trentaine d'années qui était victime de violences sexuelles de la part d'un homme qui les contestait. Et il expliquait que ces violences, qui consistaient d'ailleurs à l'étrangler, lui tirer les cheveux et lui taper la tête contre les barreaux du lit, n'étaient rien d'autre que des pratiques sadomasochistes auxquelles elle avait parfaitement consenti. Voilà le débat tel qu'il était planté devant le tribunal. Eh bien, au terme d'un débat contradictoire, et après que chacun ait pu prendre la parole, c'est-à-dire l'accusé, le prévenu, le procureur, la partie civile, eh bien, le tribunal a jugé cet homme, l'a condamné à un an de prison ferme avec un mandat de dépôt à la barre. Moi, j'invite l'ensemble des Français, ceux qui nous écoutent, vos auditeurs, à se rendre dans les audiences du tribunal.
Et quel est le rapport avec le tribunal médiatique en espèce?
Parce que ce jugement, il est intervenu au terme d'un débat contradictoire, ça c'est le premier principe, et surtout sur la base d'un dossier...
Mais quel est le rapport avec le tribunal médiatique? Je ne saisis pas, c'est un jugement comme il y en a des dizaines ou des centaines par jour.
Je vais finir, sauf que le tribunal qui juge, il le fait sur la base d'un dossier qui est instruit par des gendarmes et par des enquêteurs.
J'entends bien ce que vous dites, mais ce n'est pas notre sujet du jour.
Le tribunal médiatique, c'est deux termes qui sont totalement opposés. Permettez-moi quand même de vous le dire. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, si on prend simplement le cas de Monsieur Hulot, la question qui a été posée par son avocate, elle est extrêmement simple. C'est est-ce que aujourd'hui, on peut effectivement détruire la vie d'un homme que la loi interdit de juger ? Eh bien là, vous avez, en posant cette question, bafoué sur un plateau de télévision tous les principes essentiels du procès pénal, c'est-à-dire la présomption d'innocence, le débat contradictoire...
Nicolas, j'entends ce que vous dites, mais c'est quoi l'alternative ? C'est-à-dire qu'il faudrait légiférer pour qu'on ne puisse pas parler de ces affaires. Mais alors les journalistes ne font plus jamais une enquête.
Mais pourquoi les journalistes voudraient s'ériger en juge ou en procureur ?
Alors, pardonnez-moi, Nicolas, on va marquer une pause si vous voulez. Là, je suis journaliste. Et je vous assure, le corporatisme, ce n'est pas mon genre. Dans une démocratie, évidemment, il y a les juges, évidemment, il y a les hommes politiques, mais il y a aussi les journalistes. Parfois, les journalistes sortent des affaires. J'ai cité tout à l'heure Maurice Papon en 81. C'est grâce au canard enchaîné.
C'est imprescriptible, mais
le médiateur, c'était pas imprescriptible et c'était une enquête journalistique. Parfois, ce sont les journalistes qui soulèvent des lièvres. Mais si j'ose dire, on va passer à une pause parce que ce débat est intéressant. J'entends ce que vous dites. J'entends vraiment, mais je vois pas comment on peut faire autrement dans une démocratie. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier à 13h11, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. La justice ne se rend pas dans les tribunaux médiatiques. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui vous font réagir ce midi. Des propos confirmés à RTL par plusieurs participants au Conseil des ministres hier. Louis-Marie Aurault, journaliste au Canard Enchaîné, était l'invité de RTL Midi.
C'est vrai que c'est une expression assez agressive, utilisée par les hommes politiques et par M. Macron tout récemment, pour essayer de tempérer les ardeurs de journalistes qui enquêtent. La presse n'est pas heureusement univoque. Il y a des gens qui travaillent comme des cochons, puis il y en a qui travaillent très bien.
Tribunal médiatique, une expression qui revient souvent. Exemple, le 16 juillet 2019, avec Sibeth Ndiaye, ancienne porte-parole du gouvernement sur RTL.
Je crois aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait de tribunal médiatique. Et il est tout aussi important que des gens qui sont mis en accusation, sur qui pèsent des soupçons, puissent se défendre.
Peut-on réellement parler de tribunal médiatique ? 32-10, 3-2-1-0.
Bon, Nicolas, quoi que vous soyez extrêmement intéressant, c'est vrai que vous êtes exprimé déjà longuement. Juste un mot,
puisque vous parlez de démocratie. Ouais. Grâce aux journalistes, on est en démocratie. Mais d'abord, la démocratie, c'est d'abord le procès équitable. Et c'est ce que je voulais rappeler. Vous savez, l'acte de juger, il est suffisamment important pour que la société française l'ait confié à des professionnels. Et ces professionnels, ce sont des magistrats qui ont 30 mois de formation à l'école de Bordeaux et dont la première qualité qui est exigée, c'est celle de douter. Et vous savez, je pense que quand on a compris ça, on pense que le tribunal, le procès n'a rien à faire sur un plateau
Nicolas,
de télévision.
Nicolas, vous avez raison, mais je vais prendre un autre exemple parce qu'en ce moment, c'est très intéressant. Quand vous voyez les photos que Margot Pino, judocate de renom, a postées hier sur les réseaux, quand vous apprenez que son compagnon, qui était aussi son entraîneur, l'a frappé, quand vous savez enfin que la justice a relaxé le dit compagnon, évidemment, vous dites, mais comment est-ce possible ? On est d'accord. Moi, j'ai vu ça, je dis, comment est-ce possible ? Et en même temps, je ne sais rien au fond de ce dossier.
Je sais, effectivement.
Bon, il se trouve d'ailleurs que le compagnon l'ex-compagnon de Madame Pino, il est en train de prendre la parole pour tout vous dire et de faire une conférence de presse parce qu'il a bien compris qu'il faut s'exprimer puisque lui n'avait pas eu le droit à la parole.
Votre collègue journaliste, il a rendu compte de ce qui s'était passé à l'audience et la juge qui a jugé cette affaire, elle a douté, elle a dit moi j'ai des affirmations contradictoires.
J'entends tout ce que vous dites. Nicolas, mais je vous dis, je vous dis que il y a effectivement la justice médiatique et puis il y a l'opinion. Effectivement, l'opinion parfois a un avis qui condamne une personne alors que cette personne n'a pas été condamnée par la justice.
Voilà, oui, mais c'est pas à l'opinion de juger, c'est au magistrat.
Mais oui, mais alors comment on fait?
C'est-à-dire
que les gens, ils sont plutôt... Moi, je veux bien que vous me disiez ça, mais tout à l'heure, je crois que c'était M. Euro, et puis après, on va passer avec un autre auditeur, qui disait, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Parce qu'autrement, vous n'avez plus une seule enquête journalistique.
Non, mais d'accord. Mais bah, il y a des magistrats. Il y a des magistrats qui...
Vous ne répondez pas à ma question. Non, vous ne répondez pas à ma question parce que je vous...
Non, mais parce que vous êtes dans l'émotion d'une photographie.
Ah non, mais vous voulez buser la presse. Bah alors, vous seriez bien sous une dictature, cher monsieur Nicolas.
Non, les journalistes peuvent faire des débats très intéressants sur l'obligation de voter, etc. Sur
des mais ils ne doivent pas parler des enquêtes en cours, quoi.
Non, ils ne peuvent pas parler des procès, ce n'est pas leur métier.
D'accord. Bah, écoutez, c'est une jolie démocratie, mais pourquoi pas, Nicolas, hein.
Restez avec nous. Ça n'a rien à voir avec la démocratie.
Bah, c'est une journée... je vous dis, sous Staline, il n'y avait pas de problème de médias. Les médias ne pouvaient pas enquêter. Nicolas, restez avec nous, parce que c'est Valentin qui va prendre la parole. Bonjour, Valentin.
Bonjour, ami.
Écoutez,
la traditionnelle à chaque fois.
Mais non, mais c'est bonjour ami, effectivement. Bonjour ami Valentin. Vous avez 27 bonjour, ans, vous Pascal. Êtes opticien. Qu'est-ce que vous pensez de notre conversation avec Nicolas?
Eh bien, écoutez, ça m'intéresse fortement. Personne ne pourra faire croire au peuple de France que personne ne savait rien dans ce petit microcosme.
Attendez, de quoi vous parlez?
Par rapport à l'affaire Hulot, personne ne pourra nous faire croire qu'on ne savait rien.
Ah bah ça c'est encore autre chose. Bah, écoutez, moi j'étais à TF1, j'étais pas au courant. Hein. Ça je vous le dis, j'étais pas au courant.
Mais il est très proche, savait forcément.
Bah, écoutez, moi, j'avais jamais entendu parler de ça à TF1.
Après, ce qui est très drôle, c'est que quand les médias arrivent à les ériger tout en haut, ça leur convient. Mais quand il s'agit de mettre le nez dans les choses un peu moins pesantes, là, ils tirent tous dans le même sens. Moi, je voudrais vous parler très simplement d'une amie qui, depuis 6 ans, se bat contre une affaire. Elle a été victime de pédocriminalité quand elle était petite. La justice ne fait pas son travail. Ça fait 6 ans qu'elle attend de pouvoir se reconstruire. À l'heure actuelle, la seule solution pour se faire entendre, c'est essayer de passer dans les médias pour que l'affaire avance. Est-ce qu'en 2021, on trouve ça normal? Moi, personnellement, pas. Elle a essayé de saisir et d'appeler plusieurs rédactions, plusieurs médias. La première chose qu'on lui a dit, c'est que vous voulez qu'on parle de vous, ok, mais il faut faire du buzz.
Et non, voilà, je crois pas qu'un journaliste dit ça ou c'est si. non.
Si Pascal, à l'heure actuelle.
Mais non,
pour
écoutez, je connais tous les. Je vous assure, je connais les journalistes d'RTL et je sais comment ils fonctionnent. Si quelqu'un les appelle, ils écoutent, ils vérifient, ils hiérarchisent, ils voient si la personne est crédible, si effectivement son cas mérite d'être médiatisé. Et en permanence sur l'antenne d'RTL, vous entendez régulièrement des cas que personne ne connaissait, mais qui sont sortis de l'anonymat, précisément parce que le journaliste fait un focus dessus.
Eh bien, chiche, Pascal.
Évidemment, je vous dis. Bah, alors, je vous dis chiche, bien sûr. Et le service police-justice qui m'écoute, cette jeune femme, effectivement, hors antenne, vous allez donner les coordonnées de cette jeune femme. Et le service police-justice, très certainement, va pouvoir savoir de quoi il en retourne, bien évidemment.
La seule voix, c'est ce que je voulais faire passer à l'antenne, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se battent contre tout ça tous les jours, qui veulent se reconstruire. Et dans certains cas, la seule voix pour arriver à
alors ça, vous avez raison. Là, vous avez raison, c'est les médias.
Le tribunal médiatique.
Vous avez parfaitement raison.
Est la seule solution.
Mais vous avez quoi? Le tribunal, en tout cas, la voix médiatique. Moi, j'aime pas l'expression tribunal.
Pas le tribunal, oui.
Valentin, on marque une pause. Nicolas est avec nous. Valentin est avec nous. Olivier, je trouve que c'est un sujet absolument passionnant pour tout vous dire. Je salue notre ami Damien Béchiot. Vous savez qu'on est le 2 décembre aujourd'hui. On est bien le 2 décembre, non? On est le 2 décembre ou on est le 3 décembre? On est le 2 décembre.
Le 2, Pascal.
Alors, 2 décembre, si vous êtes admirateur ou fan de Napoléon, c'est votre jour. C'est le jour du couronnement, 2 décembre 1804. C'est le jour d'Austerlitz, 2 décembre 1805. Donc, on écoutera peut-être une petite chanson à la gloire de Napoléon. Il y a une chanson de Serge Lama, très célèbre. Napoléon et Napoléon et Napoléon et Napoléon. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Couple infernal, nous le disions, couple impossible, mais couple essentiel, sauf à sombrer dans une dictature. Justice et médias, Laurent.
Et vous pourrez répondre aussi à une autre question dans quelques minutes sur l'antenne. Faut-il rendre le vote obligatoire
selon... Le vote ou le vaccin ?
Le vote obligatoire.
Ah non, il faut tout rendre obligatoire désormais en France.
Bienvenue au 21e siècle.
Faut-il rendre obligatoire ? Les auditeurs ont la parole. L'écoute de les auditeurs ont la parole pour tous les Français.
De 13h à 14h30.
Non, moi je ne suis pas pour. Les gens choisissent.
Faut-il rendre le vote obligatoire ? Selon notre sondage BVA pour Orange et RTL, près d'un électeur sur 10 n'est pas inscrit sur les listes électorales. Cela représente plus de 4,5 millions de Français. La principale raison, le désintéressement de la politique. Vient ensuite le sentiment que voter ne sert à rien ou encore les conditions pour être inscrit qui ne sont pas réunies. François de Rugy, l'ancien ministre et député de Loire-Atlantique, est favorable à cette mesure.
Aujourd'hui, le suffrage universel est virtuel. Il est virtuel puisque...
Pourquoi ?
Bah, on a des élections qui se jouent à 30% de participation des dernières élections municipales, 40% les régionales, les départementales. Je pense que ça sape la légitimité même de ce que ensuite on peut décider dans les assemblées.
Qui dit obligatoire dit sanction normalement. Laquelle ?
Oui. Conduire, dans ma proposition de loi, j'avais mis l'amende dite de classe 1 qui est de 35 euros. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se réveille pour défendre le suffrage universel le jour où il y aura quelqu'un qui prônera un régime autoritaire qui sera élu.
François de Rugy, invité de RTL ce matin avec Yves Calvi. Vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, eh bien venez nous donner les raisons standards. 3210.
Alors, Nicolas et Valentin sont restés avec nous. Olivier est là. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci. Votre avis sur ce tribunal médiatique ?
Bah, moi, le tribunal médiatique, c'est une chose, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup plus dangereux, c'est le tribunal des citoyens, le tribunal d'Internet. Parce que là, on est surtout sur quelque chose qui est vraiment tranchant. On est dans de l'immédiateté, on est dans du commentaire comme ça, sans connaître vraiment le fond du sujet. Et ça, ça peut être très, très dangereux. Parce que vous avez, sous prétexte que vous avez des amis, alors vous vous sentez appartenir à une communauté. Donc, vous relayez souvent des contenus dont vous ne connaissez pas forcément le fond. Des fois, c'est même en deux, trois mots, vous faites une opinion sans connaître. Et bien sûr, vous n'oubliez pas ce petit commentaire qui va bien. Et c'est là que, justement, le bien ou le mal peut commencer. Ainsi de suite. Donc, après, vous voyez, un petit peu, c'est assez grave.
Oui, j'entends, mais bon, c'est pas non plus ce qui se dit sur Internet. On peut prendre un peu de distance et...
Oui, bien sûr. Il y a des gens qui prennent ça pour rendre compte. Hein.
Certains, mais ce qui se passe sur Internet, bien sûr, et moi je pense surtout aux enfants, quand il y a harcèlement, des choses comme ça, on peut parler d'une sorte de tribunal qui se met en place, mais c'est pas vraiment notre question là aujourd'hui. Notre question c'est qu'effectivement certaines affaires, certains noms sont jetés en pâture dans la presse avec une opinion publique qui se fabrique et que parfois elle est en dehors de la réalité judiciaire. Alors, on a cité des exemples comme l'affaire Grégory. L'affaire Grégory, c'était terrible d'ailleurs, hein, puisque certains journalistes ou la presse a désigné des coupables, avec les conséquences qu'on sait parfois, hein, qui ont été dramatiques. Je vous rappelle que Bernard Laroche a été tué.
Oui, bien sûr. Mais moi, ce qui me dérangerait peut-être un peu plus par rapport à maintenant aux journalistes, c'est plus leur façon et leur volonté, peut-être inconsciemment ou certainement consciemment, de vouloir faire passer leurs opinions par rapport à souvent des questions posées sur quelqu'un qui est en face, qui doit leur répondre. Et on voit bien que c'est orienté. Je ne parle pas forcément de Monsieur Zemmour ou de quelqu'un d'autre. Hein, mais on voit.
Bah, c'est
on voit
des
bien
exemples
que,
qui peuvent voilà. nous éclairer ce que vous dites. Quels sont les exemples, par exemple, où vous trouvez que les médias, alors ils sont pluriel les médias, il n'y a pas un média.
Oui, bien sûr.
Donc ce qui est ennuyeux, c'est s'il n'y avait qu'un média, mais bon, qu'il y ait une chaîne qui soit plus engagée qu'une autre pour certains thèmes ou certaines personnes.
Oui, c'est plus ça.
Mais alors, est-ce que vous avez un exemple à nous donner ?
Bah, je vais pas dénoncer parce que je...
Ah si, c'est bien dénoncer.
Non, mais je vois le matin quand je peux pas capter RTL, je suis sur BFM.
Oui.
Ou RMC et on voit bien textuellement, pour pas la nommer, Madame de Malherbe, on voit bien l'orientation politique qu'elle a.
Bah écoutez, ça m'ennuie de nommer quelqu'un, un journaliste.
Ah oui, bah, vous dites de nommer, alors moi
non mais c'est oui. Non mais je voulais un exemple, je voulais pas que vous cibliez une journaliste de talent par ailleurs.
Ah, je ne dis pas qu'elle n'est pas de talent,
ce qui m'intéressait, c'était sur une affaire où
ah, bah,
sur...
j'en ai...
sur, ou sur un homme politique, vous avez le sentiment que la presse s'est engagée ou pour ou contre et que ça vous a choqué. C'était ça qui m'intéressait.
Alors plus précisément, ce qui s'est passé par rapport à monsieur, à l'entretien de monsieur Zemmour par rapport à monsieur Boulot. Voilà, c'est même étonnant que, enfin moi ça m'a un peu scotché. Je me suis dit, mais c'était pas une interview, c'était rien. Déjà le temps à partir, je m'attendais à ce que ça prenne un peu plus de temps dans le journal déjà.
C'est intéressant votre formule, c'était pas une interview, c'était rien. Finalement, c'est peut-être la meilleure formule que j'ai entendue. Je veux pas être désagréable avec mon confrère Boulot, mais j'écoutais Alain Duhamel sur une autre radio hier, sur une autre antenne, qui disait effectivement, il regrettait l'interview et il disait voilà, c'est pas une interview qui est adaptée. C'est pour ça que votre formule est assez bonne. Cette interview n'était pas adaptée, disons-le, au moment. C'est-à-dire qu'il présente le matin sa candidature et a priori, parce que tout ça c'est des règles non écrites, mais a priori le soir tu fais une interview sur son programme et sur l'avenir et tu lui rappelles pas tout ce qu'il a écrit, sur lequel il a déjà répondu, surtout si tu n'as que 10 minutes. Donc c'était pas adapté, on va le dire comme ça, Olivier. Bon ben merci, mais vous avez, les journalistes, vous trouvez que nous sommes parfois trop procureurs, c'est ça?
Pas forcément. De plus en plus, peut-être. Alors le fait peut-être d'avoir subi ces confinements qui a fait qu'on était un peu plus devant la télé. On a peut-être eu plus la possibilité de voir ce qu'il en était réellement. Et puis, bah oui, comme vous l'avez dit, faut filtrer. De toute façon, il n'y a pas photo parce que il y a un moment du matin au soir, c'est juste hallucinant. Et puis si je peux juste terminer cette question-là, donc c'est par rapport au message de Monsieur Macron. C'est bien ça. Donc c'est quand même lui qui a les clés du pays, donc s'il y a quelque chose à changer...
Oh, vous savez, il a les clés du pays, mais il ne contrôle pas tout, les médias...
Oui, mais bon.
Vous savez, les présidents de la République, je ne veux pas dire qu'ils contrôlent de moins en moins de choses, mais... Vous savez...
D'accord.
Vous le voyez bien,
les médias sont libres.
Les médias sont libres, et c'est important, bien sûr, un président de la République, mais même lui-même, avec son administration, il parle souvent de l'état profond et de la difficulté de faire passer parfois les décisions ou les réformes qu'il voudrait mettre en place.
Il a fait du en même temps.
Merci en tout cas, Olivier, c'était intéressant,
voilà,
et puis il nous reste Marie sur ce sujet. Monsieur Olivier est là, je le salue.
Bonjour Pascal, bonjour.
Approche le week-end.
Ah oui, on approche du week-end, mon moment.
Et c'est le moment Olivier.
Ah bah oui, c'est mon moment.
Bon, et vous avez déjà des petites choses en vue? Non.
Moi je vous dirai ça tout à l'heure, Pascal, après la pub.
À tout à l'heure, c'est lui maintenant qui dit. Il a pris la confiance.
Mais non.
À tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Je m'imaginais que César, je m'imaginais qu'Alexandre.
Un des personnages les plus exceptionnels. Vous savez que derrière Jésus, c'est l'homme qui est le plus connu au monde, Napoléon. C'est incroyable. Hein. Et il est français, figurez-vous. 2 décembre 1804, le sacre. Vous y étiez peut-être?
Évidemment, comme vous.
Et 2 décembre 1805, Austerlitz. Et 2 décembre 1851, le coup d'État de Napoléon III. Hein, celui qui était Louis-Napoléon Bonaparte, dont je rappelle qu'il fut le premier président de la République. Si vous voulez briller dans les dîners, vous dites quel était le premier président de la République? C'est Louis-Napoléon Bonaparte en 1840.
Je vais m'en servir ce soir pour
en
effet
le monde.
Mais bien
sûr, ça, vous dites les gens, quand vous enduyez dans un dîner, vous posez des questions comme ça.
Merci pour ce moment d'histoire, et vous pouvez nous appeler également pour parler d'autres sujets. 2 premiers cas de variant Omicron ont été confirmés en Île-de-France et dans le Haut-Rhin, des voyageurs rentrant d'Afrique. Êtes-vous inquiet par la situation sanitaire dans le pays? Êtes-vous prêt à réduire vos contacts, vos rassemblements avant Noël? C'est en tout cas le conseil de l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, invité hier de RTL Soir avec Julien Cellier.
Si on diminue par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui de 20% nos contacts, on arrivera à juguler cette cinquième vague et à l'amener à des niveaux beaucoup plus acceptables. Alors pour vous donner un ordre d'idée, un couvre-feu c'est 50%, un confinement c'est 80% de diminution des contacts, 20% c'est ajuster un peu les curseurs par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui.
Les fêtes de Noël ne sont pas en danger si nous faisons tous attention. Déclaration ce matin de Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique.
Il me semble que justice et médias forment un couple dont les objectifs, les intérêts, les pratiques sont opposés. La justice instruit, elle approfondit, elle complexifie. Et la presse, c'est vrai, vulgarise, spectacularise, simplifie. Médias et justice paraissent donc incompatibles, mais ils sont bien obligés de faire ensemble, et c'est ça qui est complexe. Nous sommes avec Marie. Bonjour Marie.
Oui, bonjour Pascal Pro. Alors écoutez, on ne peut pas toujours taper sur les médias. Beaucoup de journalistes font leur travail consciencieusement. Et je dirais même que dans une certaine limite, même s'il y a eu des ratés, comme vous avez dit, des gens qui ont été condamnés en première instance alors qu'ils étaient
innocents. Oui, et puis je pense même à des gens qui n'ont pas été condamnés du tout, comme Dominique Baudis, et c'était à la une du Monde, et c'était sous la responsabilité d'Edoui Plenel.
Je pense que dans l'ensemble, et moi je suis pour que les médias fassent leur boulot, mettent à jour beaucoup de choses, parce que quand même des personnes qui ont le pouvoir et qui peuvent être extrêmement nuisibles vis-à-vis de leur entourage, c'est pas possible, on peut pas les accepter. C'est regrettable que toutes ces jeunes femmes n'aient pas porté plainte avant, mais je vous citerai le cas de Pascal Mitterrand. La petite était mineure, elle était mineure. Sa mère est intervenue parce que elle voulait pas faire de vagues, mais le deal qui avait été fait avec parce que quand même elle avait pris il y avait des avocats qui étaient sur l'affaire, le deal qui avait été fait avec Nicolas Hulot à cette époque, c'est qu'il arrête son cursus politique, voilà, et elle c'était que il ne soit pas qu'il arrête toute la politique. Il a pas très bien tenu sa parole, mais beaucoup autour de lui savait, et comme c'était quelqu'un d'emblématique, je cite lui, mais il y en a certainement d'autres, on l'a beaucoup protégé et on a voulu ignorer ce qu'il était alors qu'on savait. Donc les journalistes, dans ce cas-là, même s'il n'est pas condamné, même si les faits sont prescrits, font leur boulot, ils enquêtent, c'est pas contre Nicolas Hulot spécialement, c'est contre tous ceux qui ont le pouvoir et qui peuvent
elle n'était pas mineure, sauf erreur de... Voilà, je viens de vérifier parce que...
Elle n'était pas mineure.
Non, elle avait 19 ans. Ouais, elle avait 19 ans.
Ah bon ? Elle n'a pas porté plainte. Et
non, mais c'est important. Et moi, j'avais le doute, donc je vérifie. J'ai vérifié immédiatement. Et elle avait 19 ans. C'était une très jeune femme, très jeune femme, bien évidemment.
Très jeune femme.
Et il avait, lui, 44 ans à l'époque des faits.
Mais donc, on parle de Nicolas Hulot, mais je veux dire que dans l'ensemble, les personnes qui ont cette possibilité de nuire, que ce soit sur le plan sexuel ou que ce soit sur le plan
économique... Donc vous êtes pour le tribunal médiatique, c'est ce que vous me dites.
Je suis pour que les tribunaux, bon si vous voulez...
Alors le mot est... En tout cas, vous êtes pour que les journalistes fassent leur job.
Pour que les journalistes fassent leur boulot et si possible qu'ils soient pas empêchés, parce que je suis persuadée que beaucoup d'affaires, certains sont empêchés, ne peuvent pas aller jusqu'au bout, et c'est pas leur faute. Voilà, je suis persuadée de ça. Donc je pense que beaucoup d'affaires sont mises sous le tapis pour différentes raisons.
Aujourd'hui, peu d'affaires, je vous assure, pour être dans les rédactions, je sais que les gens...
Bon
j'ai toujours du mal à faire croire ça aux uns et aux autres. Je vous assure, tout sort aujourd'hui. Tout sort, la preuve d'ailleurs, c'est que si il n'y a pas de... Dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a tellement de manières de faire circuler l'information que tout sort. Il y a 30 ans ou 40 ans, il pouvait exister de la censure, plus il y a 50 ans déjà qu'il y a 30 ans d'ailleurs. Mais aujourd'hui, tout sort et personne n'est protégé. Celui qui est en dehors des clous, croyez-moi, il est en très grande difficulté aujourd'hui.
Pour moi, c'est une immense avancée dans la République, parce que c'était pas le cas il y a quelques années.
Non, vous avez raison, c'était pas le cas, et notamment dans les affaires parfois de détournement de mineurs sexuels, etc. Ça, pour le coup, ça ne sortait pas. Merci Marie. Il est 13h38. Vraiment merci, et nous allons donc passer par la page Facebook de l'émission.
Exactement.
Grâce à notre ami Olivier qui est un peu l'homme de Facebook.
Ah bah le seul.
Surprise, c'est le seul en même temps.
Pardon.
D'où ce surnom.
Je suis le seul, exactement. Sur nos réseaux sociaux, pour Sophie, Emmanuel Macron n'a pas à donner son avis sur ce genre d'affaires, ce n'est pas son rôle. Bernard nous écrit « Les femmes ont raison de parler dans les médias, il ne faut plus qu'elles se laissent faire, c'est le seul moyen de faire avancer les choses. » Et on conclut avec Antoine, « Le tribunal médiatique risque de détériorer les relations entre les hommes et les femmes en société. »
Bon, je disais que nous sommes jeudi, c'est la veille de vendredi.
Ah oui, déjà
le vendredi précède le samedi, comme vous le savez.
Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais pensé.
Toujours un moment particulier pour un une jeune personne que vous êtes,
ah oui,
que cette explosion, j'allais dire, d'essence le vendredi ou le samedi, ou en tout cas un intérêt nouveau pour des choses que vous ne faites peut-être pas dans la semaine.
Bah écoutez, je sais pas, Pascal, ma maman revient peut-être, c'est le comeback. Alors bon, ça sera un marché de Noël avec elle, manger des marrons chauds. Voilà.
Ce garçon est exceptionnel. Parce que vous ne savez pas si elle vient, votre maman.
Pas encore, elle hésite.
Mais elle hésite, qu'est-ce qui fait qu'elle hésite?
Entre deux week-ends, elle veut faire un marché de Noël avec moi, je la comprends.
Ah ben, bien sûr, on pourrait l'appeler un jour au 32-10.
Ça serait sympa.
13h39, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
C'est une immense star en Belgique. Le grand Jojo nous a quitté hier à l'âge de 85 ans. Son éternel moustache, son air jovial, il était surnommé le roi de l'ambiance. Et si le nom ne vous dit rien, ce tube va forcément vous parler.
Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre.
Ça, c'est lui qui avait créé cette chanson.
Le Grand Jojo, chanson composée en 1979. On a soif.
Ah, je pensais que c'était une chanson du folklore de toujours, mais non, c'est une chanson qui est assez récente.
Le Grand Jojo, ouais. Immense star en Belgique.
Bah écoutez, appelez-nous. Je sais qu'on a beaucoup d'amis belges qui nous écoutent. Donc, appelez-nous au 3210. Le vote obligatoire avec Paola. Bonjour. Vous avez 15 ans, Paola.
Oui, exactement.
Ah, et vous nous appelez de temps en temps. J'aime bien quand vous nous appelez, Paola.
Pardon, excusez-moi.
Je dis, vous nous appelez de temps en temps et j'aime bien quand vous nous appelez, disais-je.
Ah là, absolument. Ouais, ça me fait plaisir. Là, en plus, je suis en mission commando parce que je suis censée un peu être en cours, là, mais...
Ah bah, voilà, ah ouais, vous...
Pour vous parler, là.
À 13h43, déjà, les cours ont repris, c'est pas 14h?
Non, malheureusement, c'est un peu plus tôt.
Ah ouais, deux montants, comme disait ma grand-mère. Deux montants, on reprenait à 14h les cours. Il n'y avait pas de cours avant. Bon, qu'est-ce que vous pensez du vote obligatoire?
Alors, je pense que j'étais assez choquée du coup du sondage et de ce débat parce que j'ai vraiment du mal à comprendre les volontés, les arguments de ceux qui veulent justement rendre le vote obligatoire. Surtout que là, on est dans une période où il y a beaucoup de libertés qui sont remises en question. Du coup, bon, j'ai pas l'impression que c'est le moment. Surtout que la politique, elle est extrêmement présente aujourd'hui. Même si je ne remets pas du tout ça en question, hein, c'est normal. Mmh. Mais après, voilà. Du coup, je pense que c'est quand même assez facile pour une personne de déjà se désintéresser un petit peu. Et je pense que ça serait un petit peu contre-productif, du coup, de l'obliger, de la contraindre. Surtout que cette personne pourrait, du coup, vouloir voter blanc. Et là, ça n'a rien à voir avec...
Non, mais je suis assez d'accord. Mais il y a des gens qui veulent... C'est François Drugy qui a proposé ça. Je suis toujours frappé dans cette société combien certains veulent imposer tout. Si tu ne veux pas voter, tu ne votes pas. Voilà, c'est ton droit. C'est un droit de ne pas voter.
Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Surtout que ça ferait quand même très bizarre quand même d'associer le pays quand même de la France qui est connu pour toutes ses libertés à être contraint d'être obligé de voter quand même. Ça ferait assez bizarre. Moi, je pense que vraiment, ce sondage-là, c'est juste la preuve que c'est pas les Français qui veulent pas aller voter, mais c'est juste le système qui leur convient pas et absolument pas le contraire, quoi.
Donc, le vote obligatoire, il est, par exemple, en Europe, je crois qu'il n'y a pas un pays qui propose le vote obligatoire, me semble-t-il. Hein. Donc, les pays rendant le vote obligatoire, je crois qu'il me semble qu'il y a l'Australie. Hein, manifestement, il y a la Belgique. Il y a quand même effectivement en Europe, il y a la Belgique depuis 1893 d'ailleurs. Vous avez la Bolivie, vous avez le Brésil, le vote est obligatoire depuis 1932. Vous avez la Grèce, deux pays européens. L'Italie a été longtemps vote obligatoire, mais il ne l'est plus depuis 1993. Au Luxembourg, visiblement, ça l'était, mais ça ne l'est plus. Aux Pays-Bas, ça l'était également, de 1917 à 1970. Et voilà, là, en France, en tout cas, je ne crois pas que ça l'était jamais. Et je pense qu'il y a peu de chances que ça le sera. Vous, Paola, vous, quand vous allez avoir 18 ans, vous irez voter?
Oui, moi je pense que oui, mais je sais que oui. Parce que j'ai toujours été très intéressée quand même par la politique et moi je considère ça comme un devoir, mais pour moi, et absolument pas pour tout le monde, même si ce qui est beaucoup dit. Et je serais quand même très triste de côtoyer des gens absolument pas passionnés par la politique et contraints un dimanche à devoir les mettre à un pâté d'ingénieurs.
Alors, pour être tout à fait complet, en Europe, Belgique, Grèce, Suisse, Luxembourg et Liechtenstein. Voilà. Et alors, par exemple, au Luxembourg, vous avez des amendes jusqu'à 1000 euros en cas de récidive. Mais bon, ils ont manifestement un peu d'argent au Luxembourg, donc tu vas pas voter 1000 euros d'amende. Ça rigole pas. Ben, merci beaucoup, Paola. Vous reprenez un cours de quoi, là? Vous êtes en...
Alors là, j'étais en cours de volleyball. Donc,
ah oui, en cours de volleyball, c'est...
En cours de maths,
ça va. Mais alors, de mon temps, il n'y avait pas non plus de cours de volleyball, pour tout vous dire. Mais c'était plus classique. C'était mathématiques, français, anglais, mais il n'y avait pas de cours de volleyball.
Hein? Oh ouais, les choses évoluent.
Non, mais bien sûr. Je... Et après, le cours de volleyball, ce sera quoi?
Ah, de français, là, on va reprendre Don Juan.
Ah, vous reprenez Don Juan de Molière?
Ouais, c'est ça, ouais.
Ah, ça, c'est bien. Je crois que 2 et 2 sont 4, ce Sganarell, et que 4 et 4 sont 8.
Sûrement, moi, j'avoue que je ne suis pas très fan du livre, mais c'est des pièces de théâtre, quand même.
Bah, c'est une pièce de théâtre, mais c'est formidable, ouais, Don Juan. Je vous assure, c'est formidable, ce grand seigneur méchant homme. Je vous assure, ça va vous plaire. Il est horrible, Don Juan. Il est méchant, il est horrible. C'est un horrible bonhomme chez Molière.
Mais intéressant à étudier.
Mais comme tous les horribles bonhommes. Non, mais c'est une pièce, vous verrez. Et puis, à cet âge-là, quand on étudie, il se trouve, alors c'est le plus grand des hasards. Moi, j'avais un professeur à Saint-Stan, à Nantes, qui s'appelait Monsieur Bernard, d'ailleurs. Et tous les élèves l'adoraient. Il est mort il y a très peu de temps, Monsieur Bernard. Et il nous avait fait étudier en seconde, précisément, Don Juan. Et je me souviens encore de ses cours. Et c'était donc en 1981.
Ouais, ça serait super intéressant parce que je pense que dans notre vie, tout le monde a au moins eu un prof qui nous a marqué. Et je trouve que c'est un sujet super intéressant.
Je suis d'accord avec vous. Et ce Monsieur Bernard, Bruno Bernard, je suis sûr qu'il y a des élèves qui sont en train de m'écouter au hasard et qui l'ont eu à Saint-Stanislas, à Nantes. Et c'est un prof qui a marqué vraiment plusieurs générations. Merci Paola.
Au revoir, bonjour.
Merci Paola. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
On a appris dans RTL Midi, grâce à l'un de nos correspondants à Marseille, Hugo Hamelin, que l'élection de Miss Cagole s'est tenue hier. Alors, concours qui se présente comme l'anti-Miss France. Et je me suis replongé dans les archives de l'INA. Écoutez par exemple l'ambiance lors de l'élection de Miss Cagole en 1997.
Les cagoles, ça veut dire en fait revendiquer une espèce d'état qui ne correspond pas à la féminité qui est envoyée par les médias, style Claudia Schouffleur, etc.
La façon de marcher, de se déplacer, la façon d'embrasser, la façon de danser.
Nous, c'est cagole de l'OM avant tout.
Alors, à l'unanimité du jury, on prend la plus cagole, la plus vulgaire, qui a les mensurations les plus craintes, les plus craignoses.
Alors, est-ce que ce concours peut choquer à l'heure actuelle ?
Alors, je suis même étonné que ce concours perdure. Parce qu'il y a une part de dérision et de second degré, évidemment. Disons-le. C'est pas une image qui est excellente, qui est donnée des femmes, disons-le aussi. Et je suis étonné qu'en 2021, je sais pas si je dois en rire ou en pleurer, instinctivement, je me dis que c'est pas mal, qu'il y a toujours un peu de dérision, un peu d'humour, un peu de légèreté, un peu de distance. Mais je suis vraiment étonné que ça perdure. Il est 13h52, dans quelques secondes, ce sera Jean-Alphonse Richard pour l'heure du crime. Mais Ernest, bonjour Ernest.
Oui, bonjour.
Je me demande si vous n'êtes pas le premier Ernest qui vient sur ce micro depuis bien longtemps.
Oh, je viens souvent avec ce nom-là sur ce micro. Oui.
Ah bon?
Exactement. Je suis un ancien élu, ancien maire et ancien vice-président du comité de communes. Oui.
Alors Ernest, est-ce que vous souhaitez rendre le vote obligatoire?
Oui, alors je vais vous dire pourquoi. Il faut que les gens soient responsables de leur destin. C'est très facile de critiquer un gouvernement ou un programme quand on n'a pas voté. Donc il faut prendre la responsabilité de son destin.
Bah oui, mais ça c'est vous qui le dites. On n'est pas obligé on peut être responsable de sa vie, mais pas forcément du destin de la France. On peut s'en fiche complètement, pourquoi pas? Ou en tout cas, ne pas vouloir voter, ne pas être associé à ça. En fait, c'est toujours pareil, on peut être libre.
Oui, on peut être libre, mais après, je vais vous dire une chose. Si vous voulez être libre, d'accord, mais après, ceux qui se disent libres, souvent viennent critiquer en disant oui, tel gouvernement n'a fait pas ceci,
ça,
tel
c'est
gouvernement
pas bien. Je suis d'accord.
N'a fait pas cela, et ils ont pas participé au vote. Alors, de quel droit ils peuvent critiquer?
Là, vous avez raison, mais c'est pas pareil. Bon.
Je vous demande pas de me dire si j'ai raison. Je réponds à vos questions et mon point de vue. Voilà.
Ça, vous avez parfaitement raison aussi, Ernest. Je suis d'accord. Vous avez raison de me remettre dans mes 18 mètres. Je suis d'accord avec vous.
Bon, ouais. Bon, donc, ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est le vote blanc. Parce que quand les gens vont voter, ils sont trouvés en 2017, ils ont été confrontés à dire « est-ce que je vote Le Pen ? Est-ce que je vote Macron ?» Donc il y a eu d'abord des votes par défaut, mais il y a eu aussi beaucoup de votes blancs. Et je pense qu'un élu, quel qu'il soit président de la République, député ou conseiller régional ou maire, fonction que je connais bien, à partir du moment où il voit un pourcentage de votes blancs assez important, il doit se poser la question suivante en se disant « bon, ben, s'il y a 30 ou 40% de votes blancs, ça veut dire que mon programme ou celui de mon adversaire ne répond pas aux désiderata des citoyens. » Donc, il faut voter, quitte à voter blanc, mais il faut voter. Et je disais à votre très aimable collaborateur que j'ai eu tout à l'heure qu'en Belgique, le vote est obligatoire. Et il y a même une sanction, il y a une pénalité. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une amende si vous ne votez pas.
Bien sûr.
Donc moi, mon point de vue personnel, qui n'engage que moi, cher ami, c'est de dire aux gens, si vous voulez être responsable de votre avenir, prenez votre destin en main et prenez position. Mais après, ne venez pas vous plaindre.
Non mais là, vous avez raison. Mais moi, j'ai toujours envie de laisser les gens le plus libre possible. Je ne veux pas dire qu'ils font ce qu'ils veulent, parce qu'on est en société. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas rouler à 180 à l'heure sur l'autoroute.
Le problème, il n'y a pas de vote obligatoire, mais par contre, ceux qui seront élus, ils devront tenir compte dans leur conscience, dans l'éthique, du nombre d'abstentions et du nombre de votes blancs.
Ah ben parce non, ceux-là, ils sont en dehors. Ceux qui y sont pas, ils sont pas, ils n'avaient qu'à venir. Vous êtes marrant.
Parce que,
ceux qui n'ont pas voulu voter, on ne tient pas compte de ce qu'ils pensent, d'une certaine manière. Et pour cause, puisqu'ils ne l'ont pas exprimé. Restez avec nous, Ernest, de toute façon, parce qu'il y a un petit point Facebook qui arrive. Et puis, on va se retrouver après le flash de 14h. Le point Facebook avec Ernest.
Exactement.
Non, pas Ernest, non, Olivier.
Moi, c'est Olivier. Merci,
oui,
Pascal.
Mais vous souvenez, il y avait, quand on était dans le temps, vous n'avez pas connu L'île aux enfants, vous.
Non, L'île aux enfants.
Il y avait un petit sketch dans L'île aux enfants. C'était d'accord. Ernest. Oui, Bart. C'était Ernest et Bart.
D'accord.
Vous vous souvenez pas de ça?
Mais pas du
Ernest,
tout, Pascal. Je n'étais pas né, je pense.
Pourquoi as-tu mis de la colle dans mon chocolat? Oui, Bart. D'accord. Ernest et Bart, c'était...
En tout cas, ça me donne envie de le regarder, ça c'est sûr. Allez. Sur nos réseaux sociaux, Alexandre nous écrit « Je suis pour le vote obligatoire à condition que le vote blanc soit comptabilisé. Pour Fab, le vote obligatoire ne servirait strictement à rien. Ceux qui n'ont pas l'habitude de voter mettront une enveloppe vide. Et on finit avec Stéphanie, il faut mettre des amendes en place envers ceux qui ne veulent pas se rendre dans l'isoloir. »
Merci Olivier. Il est 13h57 et c'est l'heure du crime. C'est toujours un moment qui me fait froid dans le dos parce que parfois c'est des histoires que vous racontez qui sont tellement horribles. Je pense aux dépeceurs de Montréal la semaine dernière.
Ah oui, Magnolia.
Oui, vous les connaissez tous, mais nous.
Formidable.
On dort plus, on fait des cauchemars après.
Je dors parfaitement. Mon cher Pascal.
Ça vous m'inquiétez parce qu'avec ce que vous racontez.
Il vaut mieux. Mon cher Pascal, aujourd'hui, on va revenir aujourd'hui évidemment sur l'affaire Jubilard. C'est
Eric
Jubilard. Parce que contrairement à ce qu'on croit, le dossier, il dort pas autant que ça. Il y a beaucoup d'expertises qui sont rentrées, il y a beaucoup de témoignages qui ont été joints à la procédure, expertise notamment sur la téléphonie de Cédric Jubilard, expertises qui sont révélées aujourd'hui par le journal Le Parisien, avec qui nous sommes en partenariat cet après-midi dans l'heure du crime. Donc, c'est un homme, son avocat va nous le dire, qui est en train de... péter les plombs, on peut le dire, Cédric Jubilard, là, il supporte mal la détention. Il va être entendu demain par les juges. Est-ce que c'est le moment de l'entendre? Est-ce qu'il va raconter autre chose que ce qu'il a raconté jusqu'à présent? Eh bien, on fait le point. 14h30, dans l'heure du crime, l'affaire Jubilard.
Le flash de 14h et la dernière demi-heure avec les auditeurs.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
Un deuxième cas du variant Omicron confirmé en métropole après un homme revenant du Nigeria non vacciné. C'est une femme de moins de 50 ans dont le schéma vaccinal est complet qui habite dans le Haut-Rhin. Elle a été testée positive au retour d'un voyage en Afrique du Sud. Le pape accepte la démission de l'archevêque de Paris. C'est Monseigneur Michel Aupetit lui-même qui avait adressé une lettre au souverain pontife après avoir été accusé dans la presse d'avoir entretenu une relation ambiguë avec une femme, ce qu'il a catégoriquement démenti. En attendant une nouvelle nomination, c'est Georges Pontier, archevêque émérite de Marseille, qui gérera les affaires courantes. Il y a un an, jour pour jour, disparaissait Valéry Giscard d'Estaing. Ce matin, Emmanuel Macron, aux côtés des dirigeants de l'Union européenne à Strasbourg, a rendu hommage à l'ancien président de la République en le qualifiant, je cite, de grand capitaine du projet européen. Il en a profité également pour dire combien nous avions besoin d'une Europe forte, ne serait-ce que pour affronter la pandémie actuelle.
Quand la tempête s'est levée, l'Europe a su se montrer fidèle à son rêve et unir ses forces. Unis pour acheter des vaccins ensemble, unis pour concevoir notre capacité d'endettement, unis pour bâtir les plans de relance partagés, car les défis de demain, qui sont au fond déjà ceux d'aujourd'hui, la santé, le climat, le numérique, se feront à l'échelle de notre union. L'incertitude grandissante du monde est un plaidoyer de plus pour une Europe plus forte.
Dans l'actualité également, moins d'une demi-heure maintenant avant de connaître les noms des deux finalistes de la primaire à droite. Le second tour, je vous le rappelle, aura lieu demain avec un résultat samedi en début d'après-midi. La météo pour demain, il n'y a pas franchement d'amélioration. Le soleil en fait ne brillera qu'à l'est du Rhône. Les courses à Vincennes, il fallait jouer le 9, le 14, le 10, le 6 et le 5. Le 9, le 14, le 10, le 6... Et le 5, il est 14h02 sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Praud.
Merci Agnès.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Et on termine avec Ernest, parce que Ernest, il a été maire en Alsace, donc il a été engagé dans la vie politique. Et quand on a été engagé, évidemment, on souhaiterait que tout le monde le soit, ce qui est bien normal. Et puis on ne supporte pas ceux qui viennent se plaindre alors qu'eux-mêmes n'ont rien fait. Ils ont été les spectateurs, en l'occurrence, de la vie politique. Mais, et ça sera notre dernier mot, Ernest, sur ce vote obligatoire, la liberté de chacun, ça reste... J'ai le même souci avec la vaccination obligatoire. J'ai le même souci lorsque il y a des obligations qui sont proposées.
Monsieur Pascal Praud, je suis tout à fait d'accord avec vous. S'il y a une chose à laquelle je suis attaché, et c'est la liberté, le respect d'autrui, quelle que soit sa condition politique, ethnique, philosophique, etc. Mmh. Mais à un moment donné, si vous voulez, il faut prendre ses responsabilités. Quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, qui les fuit, pour moi, il ne peut pas venir se plaindre après...
Non mais ça, je suis d'accord avec vous, on l'a dit ça. Là, vous avez parfaitement raison, c'est la frontière.
Alors après, l'autre sujet, je vais vous dire à mon avis pourquoi il y a beaucoup d'abstention. Parce que nos dirigeants actuels n'ont pas donné dans leur programme des ambitions politiques qui mobilisent les citoyens. Quand vous avez des enjeux politiques, avec des objectifs politiques louables, quelle que soit la tendance gauche ou droite, je suis républicain, même si j'ai mes convictions, j'ai l'esprit républicain et je respecte toutes les opinions. Mais quand vous n'avez pas de programme où il y a des ambitions politiques, avec des objectifs qui peuvent mobiliser les gens, ne vous étonnez pas qu'il y ait des abstentions. Or, le drame tant à gauche qu'il y a eu à droite, c'est qu'il n'y a pas eu de projet politique digne de ce nom ces dernières années. On a eu Louis May avec M. Giscard d'Estaing, dont malheureusement on fête aujourd'hui l'anniversaire de son décès. On a peut-être, et en même temps avec M. Macron, mais moi j'aimerais bien qu'on parle de politique étrangère, qu'on parle de la défense. J'ai pas entendu parler beaucoup de la défense dans les programmes politiques des candidats. J'ai entendu...
Il est peut-être un peu tôt encore. On est là sur... on est dans l'antichambre de la campagne.
Il n'est jamais trop tôt pour anticiper, cher ami.
Bon, ben, en tout cas, merci Ernest. Et puis on a retrouvé, je faisais allusion
alors,
tout à l'heure...
Petite précision. J'ai vu que vous avez galvaudé mon nom Ernest gentiment. Alors pourquoi je m'appelle Ernest ? En fait, je m'appelle...
Mais j'ai pas galvaudé, je trouve ça très... Moi, j'adore ce prénom. Au contraire, c'est Ernest Hemingway, Ernest Psychiari.
Oui, ça veut dire très sérieux en allemand. Bon, je vous dis en passant. Ernst, et le superlatif de Ernst. Mais je veux dire pourquoi. Mon nom, c'est Dominique Ernest. Et comme tous les gens m'écrivaient Madame, Mademoiselle Dominique, j'en ai eu marre. Alors j'ai pris mon deuxième prénom pour qu'on m'en sache que j'étais un garçon.
Bon, alors, on a retrouvé la petite séquence dont je parlais tout à l'heure et c'était...
Ouais. Et alors je vous dis simplement, je suis un vieux client, si je puis dire, auditeur d'RTL depuis plus de 50 ans.
Voilà. Ah, ça c'est génial. Donc vous avez écouté les auditeurs avec Alain Cros, avec Jean-Jacques Bourdet, avec Anne-Marie Pesson, avec tous les vieux de la vieille, entre guillemets.
Et puis la deuxième chose, j'ai le plaisir de vous entendre souvent sur CNews le soir.
Oui, voilà. mais là on est sur RTL, Ernest. Regardez, j'ai retrouvé la petite séquence. Ernest. Oui, Marthe.
Ernest.
Coucou, je suis là.
Ah, mon petit Ernest, je crois qu'il est temps que tu ranges les jouets.
Oh, Bart, ce n'est pas moi qui les ai tous sortis, tu en as porté toi aussi.
Ah oui, Ernest, mais tu en as sorti beaucoup plus que moi.
C'est bon, tu sais ce qu'on va faire, je vais ranger la plupart
c'était
des jouets,
d'accord. C'était dans l'île aux enfants.
Très bien, et moi je rangerai le reste plus tard.
D'accord,
je trouve, vous vous souvenez de ça ou pas? Mais non, c'est pas votre génération, mais nous, Ernest, ouais. Ernest.
Allez, bonne journée.
Bon, salut Ernest, et merci, on marque une pause. Finalement, on n'oublie jamais l'enfant qu'on a été. Voilà, c'est ça, Ernest. Moi, ça m'a fait penser à pardonnez-moi, hein, j'ai gardé cette âme d'enfant.
C'était mieux avant, Pascal.
J'ai pas dit ça, j'ai dit que j'ai gardé une âme d'enfant. 14h06, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors, je disais tout à l'heure que la Belgique nous appelait pour nous signaler la mort d'une star en Belgique qui est Grand Jojo. Et Grand Jojo, pour ceux qui n'étaient pas là lorsque l'ami Laurent est passé au micro, il a créé un titre qui est inoubliable, qui est « Chef, un petit verre, on va boire ». On va le réécouter avec Damien Béchiot.
On le recherche, Pascal.
On le recherche. Et on va le retrouver, forcément.
Vous l'avez.
Mais...
Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif.
Alors, le grand Jojo, il avait 85 ans et il est décédé, hélas, des suites d'une longue maladie. Ça a été une annonce faite par ses proches sur les réseaux sociaux. Et nous sommes avec Corinne. Bonjour, Corinne.
Bonjour, Pascal.
Corinne, vous êtes de Poitiers, mais vous le connaissiez, Grand Jojo, vous connaissiez son nom.
Je suis belge, moi. Je suis bruxelloise.
Ah oui, vous êtes bruxelloise, c'est pour cela. Alors, c'est vrai qu'en France, forcément, tout le monde ne connaît pas Grand Jojo, mais on sait qu'on est très écouté en Belgique, donc on salue nos amis belges.
J'en profite pour saluer ma famille, d'ailleurs, qui ne peuvent plus vous écouter sur Bel RTL, mais bon, voilà.
Bah écoutez, c'est avec plaisir.
Il a fait l'hymne aussi pour les petits Belges vont à Mexico en 86.
Je ne le savais pas, pour tout le dire, oui. vous me l'apprenez.
Hein. Les petits Belges vont à Mexico, olé, 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 qui est devenu l'emblème du club d'Anderlecht d'ailleurs.
Ah, vous avez raison, le titre sur Mexico était l'hymne de l'équipe belge pour sa participation au Mondial en 86. Les Diables Rouges avaient fini quatrième de la compétition, un des meilleurs souvenirs des amateurs de foot en Belgique.
Ah, bah, n'est-ce pas. Ah,
mais c'est vrai, bon, je me souviens.
Comme je disais à votre collègue, bah, quand on avait 14-15 ans, on le trouvait un petit peu ringard, le grand Jojo, mais chaque année, il était sur la place du jeu de balle pour le bal populaire du 21 juillet pour la fête nationale. Et on faisait des énormes farandoles avec la police, avec tout le monde. C'était super sympa.
Mais là où vous avez raison, c'est qu'on a 15-20 ans, parfois, on trouve que des choses sont un peu ringardes.
Ouais.
Et on a un peu honte de danser ou la chenille, des choses comme ça.
Ouais.
Et puis, quand on est plus vieux, on est débarrassé de ça et on peut regarder ça avec une forme de tendresse même et d'amusement.
Tout à fait. Donc voilà... Un grand merci à tous ces moments qu'il nous a apportés, toutes ces farandoles qu'on a fait, même sur la grande place de Bruxelles, toutes les fêtes, il était partout.
Corinne, qu'est-ce qu'une Bruxelloise fait à Poitiers ?
L'amour.
Ah bah ça c'est... Bah, on va tous y aller alors, si vous me permettez.
J'en profite pour l'embrasser parce qu'il vous écoute là, dans son jardin.
Ah, il est dans votre jardin, votre mari ?
Non, oui. Oui, bah, il est jardinier paysagiste, donc...
Et alors donc, vous avez, comment dire, vous avez changé de ville parce que vous... Mais alors, vous êtes rencontrés où ?
En Ardèche, à Vallon-Pont-d'Arc.
D'accord. Et alors, c'est vous qui êtes allé vers lui, plus que lui, qui a imaginé aller à Bruxelles, peut-être ?
Oui, oui, il n'aime pas les transports en commun.
D'accord. Bon. Et vous êtes, vous êtes à Poitiers depuis combien de temps ?
4 ans.
Et vous êtes rencontré quand ?
Oh, il y a une quinzaine d'années.
D'accord. Bah, écoutez, c'est une belle histoire.
Et comme je disais à votre collaboratrice, dans tous les métros bruxellois, ça s'appelle la STIP chez nous, les transports en commun, ils diffusent depuis hier le Grand Jojo dans toutes les stations.
Bah, on va l'écouter, tiens, le Grand Jojo.
Il y a une station qui a été rebaptisée Anicordi aussi, tiens.
Ah ouais, oui, Johnny. Mais Johnny était Jean-Philippe Smet aussi, était d'origine belge. Donc, ça fait.
Depuis que les autres pays savent qu'on s'amène à Mexico, dans les coulisses, ils ont dit que pour nous battre, faut se lever tôt. Ils savent qu'on est très fort et rapide comme des mosquitos. Et que sur le terrain, on va plus vite que les escargots. Quand on chauffe sur la balle, y'a plus rien qui peut nous stopper. Attention les copains, ça va partir.
C'est une chanson populaire. Merci Corinne.
Et je vous en ai envoyé une aussi en néerlandais, parce qu'ils chantaient aussi en néerlandais.
Eh ben, en néerlandais.
En néerlandais, oui.
Ouais, parce qu'il s'appelait Jules Jean Vanobergen.
Oui. C'était parfaitement bilingue.
Le Grand Jojo. Gérald est avec nous pour parler du Grand Jojo.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour, vous habitez Angers, vous êtes belge ?
Oui, j'ai des origines belges, et ça, on a su me le dire quand j'étais petit. On m'appelait le Belge, d'ailleurs, quand j'étais petit. Donc, et moi, j'ai des souvenirs, voilà, encore un peu plus jeune, j'avais 8, entre 8 et 10 ans, et j'habitais dans le Nord. Donc, pour moi, c'était la fête, quoi, quand on écoutait le Grand Jojo. Et avec Raoul de Gordverzel ou voilà les kermesses du Nord, ça j'ai connu et pour moi ouais c'était ça rappelle mon enfance et comme je disais à votre collaborateur aussi au téléphone, je me suis amusé mais il faudra pas lui dire quand mon chef m'appelle, j'ai mis cette musique sur la sonnerie de mon téléphone. Comme ça, je sais déjà que c'est mon chef qui m'appelle et puis ça met un petit peu d'ambiance, quoi. Donc, je trouve ça sympa et voilà, moi ça me rappelle. J'ai été surpris quand vous avez annoncé son décès, mais pour moi, ouais, c'est toute mon enfance du Nord qui.
Bah oui, il avait 85 ans. Hein, il avait un certain âge, bien sûr.
Et c'est vrai que dans le Nord, dans le Nord, on aime faire la fête et on s'amuse. On s'amuse sérieusement. Donc,
Philippe Claus, qui est le bourgmestre de Bruxelles, a tweeté :« C'est la joie qui traverse les générations de Belges, un amoureux de la Belgique et des Belges. Ouais. » Ses chansons les plus célèbres, voilà. « On a soif », Jules César ou encore « Et Viva Mexico oui. » devraient être diffusés sur la grande place de la capitale belge lors d'un hommage public mercredi.
Voilà, j'étais à la limite, j'étais à la frontière belge sur la commune d'Aluin, hein, donc on savait faire la fête, on allait boire un coup et puis. j'en profite, je vous remercie Pascal.
En Belgique, beaucoup de gens nous écoutent, hein, donc c'est important de parler de nos amis belges.
Pour d'autres sujets, parce que je ne suis pas tout le temps d'accord avec vous, mais des fois, ça me démange de vous appeler.
Mais appelez, vous savez, je dis souvent que je ne suis pas forcément d'accord avec moi, donc ça, je vous assure, parfois je dis bien, j'ai dit ça, je suis plus d'accord avec ce que j'ai dit.
Votre mission est importante et c'est bien qu'on puisse parler, qu'on puisse s'exprimer et. Voilà, par rapport au vote de tout à l'heure, effectivement, moi, je serais presque pour mettre le droit de vote obligatoire et qu'on vote blanc et que le vote blanc soit reconnu, ça serait important.
Eh bien, merci, Gérald. Chef,
merci à vous, Pascal.
Un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. D'autant qu'il est 14h16 et on va finir l'émission. On a soif.
Chef, un petit verre, on a soif.
Avec votre maman, vous pouvez peut-être faire la chenille sous les deux dans votre
appartement. Oui, c'est possible, parce qu'au marché de Noël.
Au marché de Noël, mais.
C'est entraînant.
À deux, on est déjà une chenille.
Ah oui, une petite chenille, mais une chenille quand même.
Allez.
Sur nos réseaux sociaux, Annick nous écrit : Le Grand Jojo était une icône, il va me manquer la chanson On a soif à bercer ma jeunesse. Pour Jean-Paul, c'est sa moustache éternelle et son air jovial qui m'a marqué. Et on termine avec Paul : De Bruxelles à Lille, il y a eu peu de stars aussi populaires que
Bruxelles.
Lui. Bruxelles. De Bruxelles, pardon.
Bruxelles au Serre, le X.
Ah, on dit pas Bruxelles ?
Ah, non, théoriquement, on dit Bruxelles.
D'accord,
on dit au Serre, mais a priori.
C'est mon accent.
Bon. Sur l'accent de Bruxelles, à 14h16. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Dreaming of a white Christmas.
14h20. Notre réalisateur hier, c'était Damien Béchiot. Aujourd'hui, c'est Lucas Dindeleu. Tous les jours à 14h20, notre réalisateur nous proposera une chanson de Noël. Je crois reconnaître Elvis Presley.
Tout à fait. Ça vous plaît, Pascal ?
J'aime bien Noël Blanc, moi j'aime beaucoup cette chanson.
Moi aussi.
Donc beaucoup de versions, et c'est vrai qu'Elvis Presley, parce que dans le temps il y avait une mode, c'est que les grands chanteurs interprétaient Noël. Je sais pas si ça existe toujours aujourd'hui, mais Sinatra a chanté Noël, et puis en France, beaucoup de chanteurs ont chanté Noël. Dalida, par exemple, a chanté Noël.
Oui, on pourra l'écouter.
Bah ça, c'est à votre disposition, c'est vous les chefs. Didier, vous voulez qu'on parle avec Didier, c'est bien cela ? Qui voulait parler de Grand Jojo ? Non ? Que me dites-vous, Didier ? Didier ?
Oui, je suis là, oui, vous m'entendez ?
Mais Didier, oui ? Didier, vous vouliez rendre hommage à Grand Jojo ?
Oui, tout à fait, Pascal, tout à fait. Le Grand Jojo, c'est une figure emblématique de Bruxelles, de la Belgique en général, mais principalement de Bruxelles. Pourquoi ? Parce que c'était quelqu'un qu'on voyait surtout sur les événements sportifs. Sa dernière apparition datait, pour nous, ça reste un petit, ça fait mal. C'est lors de la défaite en demi-finale contre vous, il y a 3 ans.
Oui. Bon, vous avez souvent perdu contre nous.
On est d'accord. Donc, troisième. Et puis, il y avait plus de 10 000 personnes sur la Grande Place de Bruxelles. Donc, tous les joueurs sont apparus sur à la terrasse de l'hôtel de ville. Et le Grand Jojo était là, donc tout le monde le connaissait, autant les joueurs que les personnalités politiques, que nous les supporters. Mmh. Et donc c'est quelqu'un qui manquera surtout lors de ces événements sportifs, en l'occurrence principalement le football et le cyclisme. Un grand copain Eddy Merckx et surtout un grand supporter d'Anderlecht, que je suis également. À chaque rentrée des joueurs sur le terrain, il y avait sa chanson... une chanson spéciale qu'il avait faite en 85, je pense, pour Anderlecht. Et depuis toujours, à chaque rentrée des joueurs, il y a le Grand Jojo qui chante Anderlecht champion. Voilà.
Donc, Anderlecht pas trop... Effectivement, quel club de Bruxelles.
Voilà, donc il n'était pas aimé, évidemment, un peu au sud, avec le standard, ou un petit peu au nord, puisque il était mauvais blanc, mais je veux dire, lorsque c'était les Diables Rouges, là, il était apprécié.
Les Diables ! Le diable. Voilà. Bon, vous n'étiez pas à la Beaujoire en 84 quand la Belgique a perdu 5-0.
Non, j'étais encore assez jeune, j'avais 5 ans, Belgique. Je m'en rappelais.
Merci beaucoup Didier, vraiment, c'était un plaisir. Il est 14h23, ça va être le débrief dans quelques secondes et Laurent Tessier va pouvoir entrer. C'est l'avant-dernière émission de la semaine et on attend d'une seconde à l'autre les résultats des Républicains. C'est vraiment dommage qu'à 14h23, j'aurais aimé terminer cette émission avec les résultats des Républicains, mais malheureusement ou manifestement plutôt, ils n'arrivent pas encore. Mais c'est imminent. Le débrief avec Laurent.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
La justice ne se rend pas dans les tribunaux médiatiques. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. L'expression tribunal médiatique revient souvent. La justice se fait-elle dans les médias ? Quel doit être notre rôle pour Nicolas ?
Vous seriez bien sous une dictature, cher monsieur Nicolas.
Non, les journalistes peuvent faire des débats très intéressants sur l'obligation de voter, etc. Sur
des mais ils ne doivent pas parler des enquêtes en cours, quoi.
Non, ils ne peuvent pas parler des procès, ce n'est pas leur métier.
D'accord. Écoutez, c'est une jolie démocratie, mais pourquoi pas, Nicolas hein ?
Et dans l'émission, vous n'hésitez pas à sortir de cours pour nous parler, comme Paola, 15 ans. Mettons en avant notre belle langue française.
On va reprendre Don Juan.
Ah, vous reprenez Don Juan de Molière ?
Ouais, c'est ça, ouais.
Ah, ça c'est bien. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et que 4 et 4 sont 8.
Oui, sûrement. Moi, j'avoue que je suis pas très fan du livre, mais c'est des pièces de théâtre.
Et puis, on est une grande famille dans cette émission. Tout le monde est à l'aise, n'est-ce pas, Valentin ?
C'est Valentin qui va prendre la parole. Bonjour, Valentin.
Bonjour, ami.
Bonjour, ami, effectivement.
On a appris dans RT Midi que le concours de Miss Cagole s'est tenu hier à Marseille. Mais attendez, sortons le dictionnaire.
Mais c'est quoi précisément une cagole ?
Alors, c'est une femme à la féminité exacerbée. C'est en tout cas la définition du dictionnaire. Je vais donner quelques petits éléments, le maquillage, les fossiles, le port jartel rose. Voilà, bon, c'est comme vous voulez, mais c'est surtout une grande bouche. Voilà, une grande bouche à la Marseillaise.
Et Lucas, notre réalisateur, lancez le cri de guerre des cagoles.
Je suis une cagole.
Ah, guerre. Alors le cri de guerre de Pascal Praud est un peu différent en coulisses.
Napoléon.
Alors vous savez, nous ne vous cachons rien dans cette émission, notamment sur nos opinions. Par exemple, que pense Pascal Praud de Monsieur Boubouk?
Il est méchant, il est horrible, c'est un horrible bonhomme.
Ah non, 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 Lucas, vous êtes trompé de version, c'est le plus modéré, plus soft.
Vous savez que derrière Jésus, c'est l'homme qui est le plus connu au monde.
Ah quand même, vous allez loin. Bon, est-ce que vous avez un projet pour Olivier Pascal, une idée pour ce week-end?
Avec votre maman, vous pouvez peut-être faire la chenille tous les deux dans votre
appartement. Oui, c'est possible, parce qu'à
deux, on est déjà une chenille.
Ah oui, une petite chenille, mais une chenille quand même.
À deux, on est déjà une chenille, phrase collecteur. Bon, pourquoi pas, une autre demande peut-être.
Chef, la soif.
Eh bien, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec un petit message à notre direction.
Chef, un petit verre, on a soif.
Le grand Jojo. Le grand Alphonse, Jean-Alphonse Richard.
C'est sympa ça.
Et aujourd'hui, le grand Alphonse vous présente... Non, non, on va arrêter là.
Parlez de vous à la troisième personne, faites voilà. Attention parce que
oui,
ça...
Après ça déteint et
là,
puis
ça peut être...
on en prend l'habitude et c'est terrifiant. Évidemment, oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est pas mon genre. L'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jubilard. Hein. Demain, deuxième audition sur le fond de Cédric Jubilard et audition capitale, on va le voir. C'est un tournant de l'enquête qui se joue et on en parle à 14h30 dans l'heure
on
du crime.
On vous écoute et on se donne rendez-vous demain.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RT.